Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau, avec un grand plaisir d'ailleurs, Amélie Ismaili, un journaliste citoyenne indépendante, connue pour son travail rigoureux et sans concession sur les dérives de l'information. Dans un contexte où la confiance dans les médias traditionnels n'a jamais été aussi basse, nous allons aborder ensemble un sujet essentiel. Face à la machine à narrer, la riposte du journalisme citoyen est-elle encore possible ? Subventions massives, rôle grandissant de l'intelligence artificielle, écart persistant entre réalité de terrain et narration officielle, nous allons décortiquer sans filtre ces mécanismes qui façonnent l'opinion publique en 2026. Eh bien, bonjour Amélie Ismaili, merci d'avoir accepté à nouveau mon invitation.
Bonjour Jean-Étienne, toujours un plaisir de venir chez Radio Courtoisie, bien sûr.
Eh bien écoutez, plaisir partagé. Pour commencer, dans un paysage médiatique saturé, Amélie est de plus en plus automatisée. Quel est le rôle aujourd'hui réel et l'impact concret du journalisme citoyen, même si c'est peut-être un peu vague ?
Oui, voilà, effectivement, c'est un terme que j'ai tendance à utiliser ou qu'on utilise certains parce que c'était surtout une manière de s'opposer quelque part aux médias traditionnels qui maintenant manquent d'une cruelle pluralité qui était en fait à la base le socle d'une démocratie et de la liberté d'expression et d'un journalisme, en tout cas d'une presse libre. C'était justement une presse pluraliste. Et aujourd'hui, on voit que pluralisme n'existe presque plus. Il y a déjà, et c'était déjà le cas avant, il y avait déjà un problème de pluralisme dès la fin des années 90 et des début des années 2000. Désormais, c'est, on va dire que c'est de pire en pire. C'est-à-dire que ce qui était censé être un journal, par exemple, de droite ou de gauche, etc., en fait, maintenant, on voit de moins en moins de différences. Vous n'avez plus de critiques, par exemple, de l'Union européenne, vous n'avez plus de critiques de plusieurs phénomènes. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, ce qu'on appelle journalisme citoyen, c'est plutôt, je prends dans un grand groupe, c'est un peu un mot valise, mais c'est un peu un groupe qui s'oppose à cette espèce de linéarité du journalisme institutionnel. Donc, par exemple, quelque part, si on s'attache aux catégories précises, Radio Courtoisie, on pourrait dire que c'est un média traditionnel, quelque part, mais qui fait aussi du journalisme citoyen. Donc, c'est très large. Mais je pense surtout que ce qui est important de comprendre, c'est que aujourd'hui, ce qu'on peut appeler des médias alternatifs, pour reprendre un terme qui est plus souvent utilisé, font peur. C'est-à-dire que vraiment, on le voit, on est dans une panique morale totale. On nous sort dès maintenant, on en parle, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Jean-Étienne, de l'ingérence intérieure qui est sortie d'une commission d'enquête du Sénat qui nous parlait des zones grises de l'information.
Justement, je voulais vous en parler, donc ça tombe bien, je voulais développer.
Bien sûr, c'est un sujet que je serais ravie de développer parce que ça montre vraiment, quand vous lisez le rapport qui a été rendu par les sénateurs, il y a une espèce de panique à dire maintenant les jeunes ne s'informent plus auprès des médias traditionnels. C'est-à-dire que 54% des plus jeunes ne s'informent plus du tout, s'informent uniquement sur les réseaux sociaux. Et puis même ce taux augmente chez ce qu'on peut appeler la catégorie boomer, entre guillemets, c'est-à-dire des plus de 59 ans. Ce taux augmente de plus en plus. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une vraie augmentation dans toute la population qui écoute de moins en moins. Et en fait, quand vous regardez les études, c'est à cause d'une perte totale de confiance à l'égard des médias traditionnels. Et cette perte de confiance, elle a toujours existé. Ça fait très longtemps qu'elle est là. Tous les ans, on a souvent, on a des sondages. Alors, j'ai un peu en plus pas mal de doutes parce que sur ces sondages, parce qu'avant le Covid, on était à 70% de de la population qui se méfie des médias. Après le Covid, ça a pas changé, alors que quand vous regardez les sondages d'opinion, les médias et le Covid, c'était une catastrophe totale. Donc je pense que bon, je pense que pour vous dire, ce chiffre est minimisé. Donc je crois vraiment que il y a une perte, et ça fait une panique morale, parce que évidemment les médias citoyens ou les médias alternatifs, on ne peut pas les contrôler. Tout comme on peut contrôler la presse d'information qu'on peut subventionner, dont on peut instrumentaliser les sources, etc., etc. Donc ça n'a pas du on n'a pas du tout de la même influence dessus, et ça fait une peur énorme, évidemment.
Et Amélie, vous vouliez aussi justement, profitons-en, revenir sur ce rapport. Bon, vous savez que l'émission et que j'ai d'autres questions est
Et on
malheureusement
n'a pas beaucoup de
court.
temps.
Mais si vous pouviez me dire un peu ce que vous en avez pensé, même si j'ai une petite idée.
Évidemment, c'est quand on parle d'ingérence, il y aura beaucoup de choses à dire sur
Bien
l'ingérence
sûr.
intérieure. J'étais en train d'écrire des choses là-dessus. C'est gravissime comme notion. Enfin, faut vraiment s'en rendre compte. Une ingérence, c'est gravissime. Non seulement c'est gravissime dans le sens, c'est un oxymore. Hein, c'est une stupidité. Enfin, c'est une absurdité, si
C'est
vous
ça.
voulez. Une ingérence, hein, c'est l'acte de d'intervenir dans les affaires d'autrui. Donc, une ingérence intérieure, ça devrait être le fait pour des citoyens français d'intervenir dans les affaires de l'État.
Mais bien
Donc,
sûr.
ça ne veut rien dire, évidemment. Donc, c'est le principe de la démocratie, même, j'ai envie de dire. Mais c'est pour vous dire, c'est qu'en fait, la notion d'ingérence dans l'esprit est devenue de plus en plus synonyme du fait de désinformer. Or, ce qui est intéressant, c'est que en fait, la désinformation, quand vous regardez bien les statistiques, etc., ça n'est jamais, presque jamais, de la fake news, vraiment. C'est-à-dire que ça n'est jamais une fausse nouvelle. C'est toujours, en fait, une interprétation. C'est-à-dire que vous allez mettre ce sont des labellisations qui sont plus très, très discutables, d'informations qui vont, soit d'interprétations qui vont être, qu'on va considérer comme trompeuses, d'opinions qu'on va opposer à d'autres opinions, d'hypothèses qui peuvent être minoritaires, mais ça n'empêche pas moins que ça reste des hypothèses. Voilà, vous avez toujours c'est toujours des labellisations qui vont, en fait, se confronter à une parole d'autorité. Et à l'inverse, vous aurez aussi parfois tout simplement des informations qui sont parfaitement factuelles et parfaitement vraies. Ce qui fait que même dans le rapport, vous avez à la page 94, parce qu'il existe une loi anti-fake news, hein, en réalité. Hein. C'est une loi qu'avait fait Emmanuel Macron, qui permettait d'ouvrir un référé
C'est ça.
où vous pouvez, où un juge pouvait être saisi en référé et en 48 heures demander la suppression d'une fausse information. Le problème, c'est que pour respecter la Constitution, parce qu'on a encore une Constitution, heureusement, qui protège la liberté d'expression comme un des droits les plus précieux, et n'autorise que des abus, à condition de ne pas en abuser. Donc c'est une notion un peu floue, mais globalement c'est assez protégé. Et donc pour ne pas avoir une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, le Conseil constitutionnel avait ajouté que cette loi ne pourrait être appliquée qu'à condition que la fausse information soit prouvée comme fausse, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle ne peut vraiment pas être dépourvue. Elle ne peut pas être une interprétation d'un fait réel, et elle doit porter une atteinte manifeste à la sincérité du scrutin. Cette loi, elle n'a donc jamais été appliquée, parce qu'en fait, ça n'est jamais, ça ne, les, ce qu'on appelle les fake news ne remplissent jamais ces
C'est
conditions,
ça.
justement. Et en fait, le rapport le dit, c'est-à-dire que les rapports disent que, en fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à mettre des lois parce que, la notion de vérité est complexe dans le débat juridique, et qu'effectivement, en fait, tout ce que les informations qu'ils aimeraient beaucoup censurer, parce que il faut parler de censure à un moment donné. Si l'idée, ce n'est pas de réguler les fausses informations, c'est bien ce
La
qu'on dit,
censure.
mais réguler l'interprétation, les commentaires, etc., tout ce qui fait partie du débat public, c'est que c'est de la censure, hein, tout simplement. Donc, en fait, ils disent très bien, ils disent oui, le problème, c'est qu'on ne peut pas censurer parce que, c'est souvent des commentaires vrais. Donc, c'est assez ironique, mais c'est terrible. Ça veut dire que vraiment, on est dans une fuite en avant où on cherche désespérément à imposer des mesures et des mécanismes de censure qui, pour le moment, en tout cas, qui jusqu'ici ont essayé d'être protégés par la Constitution, même si le Digital Service Act est un européen, est au-dessus. On ne peut pas demander à un juge pour le moment de supprimer une fausse information qui serait juste une opinion ou un commentaire de fait réel.
Chère Amélie, juste une petite pause, un petit message pour les auditeurs.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Amélie, début avril, on a vu de nouveau, hein, depuis avril, pardon, parce que je vous avais reçu en avril de mémoire, on a vu de nouveaux plutôt exemples flagrants de désinformation, comme le récent cas France Info, hein, que vous avez pointé. Qu'est-ce qui a changé dans les méthodes des médias mainstream, selon vous?
Là. Rien. Je sais pas. Je ne sais pas à quel. Est-ce que vous pouvez me préciser à quel France Info vous parlez peut-être
de votre dernier poste, oui.
Un poste sur la Chine?
Tout à fait.
Oui. Alors, c'est pas moi hein, qui ai des. C'est une vidéo, c'est une.
Que
femme
vous avez relayé, effectivement.
J'ai relayé l'affaire, voilà. Mais je préfère, j'aime bien. Voilà.
Bon, ah,
je
ben, dis, vous avez bien. Raison. Oui.
On appartient à César, ce qui revient à ça. Moi, j'ai simplement retweeté
tout à fait.
L'histoire. Mais effectivement, c'était une jeune femme qui habitait en Chine et qui a fait l'erreur d'entendre France Info un jour parler de la Chine. Et elle s'est aperçue qu'on ne disait que des bêtises et c'était assez exceptionnel. Et donc, elle a vraiment. En fait, voilà, elle a sorti. On avait cet exemple d'une vidéo où on a une journaliste de France Info qui raconte que des mensonges.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est des faits qu'elle n'a même pas, qui n'étaient même pas vérifiés. En fait, ce qui est terrible, c'est non, les méthodes n'ont pas changé. Beaucoup, en fait, énormément, tous ces gens qui vous parlent de lutter contre les fake news, etc. En fait, il y en a beaucoup qui ne font même pas un travail minimal d'information.
Mais
c'est-à-dire
voilà.
que le travail minimal. Vous vous rappelez, je pense, j'imagine, Jean-Étienne, de cette histoire de cheminée, de missile
ah,
cheminée.
Oui,
C'est-à-dire
oui.
que sur France 2, on vous a expliqué tranquillement qu'une cheminée, c'était un missile qui allait exploser. Bon, jeté par les Russes. Bon, voilà. C'est-à-dire que la personne qui faisait ça, comment c'est arrivé? Parce qu'ils ont dit, excusez-nous, c'est une erreur, effectivement. Mais comment ce genre d'erreur arrive? Parce qu'en fait, ce sont des producteurs d'informations privées, parfois, qui fournissent des dépêches, etc. Ces dépêches ne sont même pas lues, ne sont même pas vérifiées, elles sont lues. Donc, en direct, la journaliste a lu son texte qu'on lui avait donné et la vidéo. Et s'est pas aperçue que ça ne correspondait pas à ce qui était dans la vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un travail de ce qu'on appelle la base du journalisme, qui est le recoupement. Quand un recoupement, c'est ce que moi, je fais tout le temps, en fait, justement, quand j'essaye de déconstruire un peu les fact-checking. C'est que je vérifie justement eh bien, plusieurs sources, et si possible par des sources qui sont contradictoires les unes aux autres. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen de trouver une forme de, entre guillemets, d'objectivité. Et donc, et en fait, il n'y a même pas ce travail-là, c'est ça qui est terrible. Donc, les méthodes n'ont pas changé. Et effectivement, du coup, ce sont des systèmes. Ça ne veut pas dire que tous les journalistes le font exprès. Malheureusement, ils ne le font pas exprès. C'est simplement qu'en fait. Ils sont beaucoup plus imperméables à une forme de propagande.
Ben
Quand vous
voilà.
avez une entreprise privée
exactement
qui
pour ça que vous
vous
avez posé la
fournisse
question.
Tout ce qu'il faut, bah forcément, vous êtes beaucoup plus imperméable à des fake news, ironiquement,
ben
ou ou de la propagande. Et je prends un exemple tout simple. Quand on parle de fake news, c'est ça qui est assez intéressant, et qu'on blanchit systématiquement cette idée que les fake news représenteraient 15 milliards de visibilité. Enfin, voilà, on vous donne des shows énormes, etc. En fait, c'est des fake news. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, quand vous regardez les chiffres, ces chiffres n'existent pas. En fait, les chercheurs à peu près sérieux, ils vous diront tous qu'on n'a aucune quantification réelle de ce qu'on appelle la fausse nouvelle, parce que la fausse nouvelle, de toute façon, il n'y a pas de spécifique. Enfin, il n'y a pas vraiment de marqueur qui désigne ce que c'est exactement. Donc, déjà, il y a un problème de définition. Donc on n'arrive pas à le quantifier. Donc en fait, de manière générale, est-ce qu'on appelle la vraie fausse nouvelle, hein, c'est-à-dire une rumeur qui est entièrement fictive et construite, ça existe, hein, évidemment que ça
bien
existe
sûr.
Sur Internet. Mais c'est plus rare, en fait, c'est beaucoup plus réduit que ce qu'on imagine. C'est vraiment, ça a très peu d'incidence. Parce que les internautes, en fait, justement, ne sont pas idiots. Et globalement, Et quand ils voient en fait des rumeurs qui sont complètement fabriquées, ils le reconnaissent, ils le signalent, ils ne relaient pas. C'est-à-dire, donc il faut faire confiance en fait aux personnes. Quand on fait confiance aux personnes, on s'aperçoit qu'en fait, elles sont assez très peu imperméables à la vraie fake news. Et c'est aussi justement pour ça qu'elles ne sont plus confiantes dans les médias d'information traditionnels, parce que ils ont blanchi beaucoup trop de narratifs de propagande qui étaient des faux grossiers souvent.
Je voulais vous entendre aussi revenir, vous savez, sur les assises du journalisme de Tours, hein, qui avait eu lieu en avril, je crois. Est-ce que pour vous, les... Oui, dites-moi.
Bah, c'est pour en parler rapidement, parce que...
Bah, je voulais savoir, en fait, Amélie, si justement elles ont produit des effets concrets, ou est-ce resté un exercice de com, quoi, clairement.
C'était un exercice de com, parce qu'il faut savoir que Macron, quand il est arrivé au pouvoir, les premiers temps, il a surtout cherché à museler la presse, ce qui est dommage parce que la presse, elle l'a vendue et survendue. Hein. Mmh. J'ai regardé ne serait-ce que les fact-checking ont même menti. J'ai même vraiment en 2017, c'est un peu moins le cas en 2022. Hein. Mais les fact-checking de 2017, je vous conseille à tout votre public de Radio Courtoisie de faire un tour sur ce que c'est, pour se rendre compte que à quel point c'était plus de la presse de cour, c'était gravissime. C'est-à-dire qu'ils ont blanchi les promesses d'Emmanuel Macron, les promesses de campagne, comme une vérité sainte, sacrée. Et ce qui fait que vous avez plein de fact-checking qui, en fait, sont des fake news totales, puisque c'était des fausses promesses d'Emmanuel Macron. Ouais. Donc, c'est ça qui est assez exceptionnel. Mais voilà, bref, bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait ça, mais mine de rien, c'est terrible, malgré cette presse de cour qui était quand même assez importante, il y avait encore un peu plus de critiques. C'est-à-dire qu'il y avait un peu moins de... Il y avait un peu plus de liberté, c'est-à-dire que c'était une presse de cour qui était consentie, si vous voulez. Mmh. Et en fait, Macron a été quand même plutôt assez critiqué pour son hyper-pouvoir, cette tendance à l'hyper-pouvoir, hein, il voulait absolument tout contrôler, et il n'aimait pas beaucoup les journalistes. Il a fini par être critiqué à cause de ça, et en fait, il a compris que Macron, il a plus intérêt à les avoir de son côté, les journalistes, clairement. Il ne pouvait pas faire non plus ce qu'il voulait. Donc là, il est en train, dans une espèce de grand moment de, voilà, un peu de léchage de bottes, si je peux me permettre. Pardon, pardonnez-moi l'expression, hein, je suis désolée pour cette expression, mais c'est un petit peu ça. Okay. C'est-à-dire qu'il va aller dire aux journalistes, écoutez, vous êtes les gardiens de la démocratie, on a besoin de vous, etc. Voilà. Pourquoi il a besoin de faire ça? Parce que, en fait, il va jouer à fond sur le sentiment qui existe chez les journalistes, qui sont aussi dans cette crainte de perdre leur légitimité sur le terrain de l'information, justement avec la montée des médias alternatifs. Mmh. Donc, comme ils ont cette crainte-là, ils sont aussi beaucoup plus perméables aux idéologies, parce que j'appelle ça des idéologies, de lutte contre contre la désinformation. Et c'est pour ça que ils ont vraiment, quand les assises du journalisme, finalement, c'était plutôt en fait un moyen de s'assurer que en fait les médias d'information traditionnelle seront bien de leur côté, en créant, en fait, c'est un peu, voilà, on a un ennemi commun, entre guillemets, c'est l'ingérence intérieure, pour reprendre le terme. Ils n'avaient pas dit ça, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que notre ennemi commun, ce sont les médias alternatifs. Donc, si vous voulez combattre justement les médias alternatifs et garder votre légitimité sur le terrain d'information, vous devez vous mettre de mon côté. C'est un petit peu ça, en fait, cet exercice qu'a fait Emmanuel Macron.
Et avec l'arrivée ou l'évolution des outils IA dans la production d'infos, le journalisme citoyen a-t-il un avantage concurrentiel aujourd'hui, en quelques mots?
Je pense sincèrement que oui, parce que en fait, l'IA, vous vous rendez compte que la production, par exemple le fact-checking, ça peut très très facilement se faire par IA, très 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 facilement. Mais ce que je fais, c'est plus compliqué, par exemple. Ce que vous faites chez Radio Courtoisie, c'est plus compliqué de le faire par IA. C'est-à-dire qu'une IA, elle ne peut pas exactement... Une IA, ça n'a pas de pensée propre. Une IA, en fait, quand vous lui posez une question, elle va vous sortir ce qui sort en premier dans les médias d'information. Donc, en fait, elle va sortir de Wikipédia, etc. Donc, si Wikipédia vous dit une chose fausse, qui arrive malheureusement très souvent, elle va le sortir. Donc, ce n'est pas une source très fiable, mais au-delà de ça, en fait, pour faire du fact-checking qui consiste à faire exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, à ressortir des médias, entre guillemets, d'autorité, hein, Il suffit tout simplement de prendre une IA, elle va vous sortir. Par contre, si on vous demande de réfléchir, de déconstruire, de faire un recoupement d'informations par rapport à, voilà, à la source de l'information, etc., etc., ben là, une IA, elle va rarement le faire. Elle peut le faire, mais à condition qu'on vraiment. Moi, j'utilise, hein, je ne suis pas contre du tout l'intelligence artificielle. Moi, je les utilise, mais en fait, il faut vraiment l'utiliser comme un outil comme vous utilisez
Enfin.
Excel avant. C'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que ça ne. En fait, vous l'accompagnez pour aller, pour vous aider, mais ce n'est pas elle qui va faire votre travail, ça reste vous. Parce que vous êtes doté d'un cerveau, et heureusement, et d'un esprit critique. Donc pour faire, et comme malheureusement le journalisme, on va dire la presse de cour, en tout cas le journalisme traditionnel a tendance à justement de moins en moins utiliser cette notion d'esprit, de cet esprit critique ou de la dévoyer, ou plutôt de blanchir une parole d'autorité, bah, le blanchiment d'une parole d'autorité, ça peut très bien se faire par une intelligence artificielle. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir un esprit critique derrière. Donc c'est ça qui est dangereux, j'ai envie de dire, pour eux. Et il y a évidemment, et puis surtout, il y a aussi une économie, c'est-à-dire que
Ah oui.
les patrons de presse, voilà, sont de moins en moins, voilà, ont moins besoin d'utiliser pour faire ce qu'un journaliste fait malheureusement, c'est-à-dire reproduire une dépêche AFP, pareil, ça, une IA peut le faire très bien. Donc, ce que fait donc, oui, les journalistes ont beaucoup de médias traditionnels ont beaucoup de soucis à se faire, hein, ça se comprend. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je ne sais pas. Moi, je pense que ça serait aussi l'occasion de dire que bah, ça permet au journalisme de se réinventer.
C'est ça.
Et mais il faut pour ça, il faudrait qu'ils se remettent en question. Et ça, malheureusement, c'est pas gagné.
Les médias subventionnés ont-ils vu leurs aides publiques évoluer en 2026 et quelles sont les chaînes ou titres qui vous semblent les plus dépendants aujourd'hui?
2026, je ne peux pas vous dire parce qu'on n'a pas les données en fait. Quand vous avez les données qui sortent sur la subvention publique, c'est souvent 1 ou 2 ans après. C'est exprès d'ailleurs, pas pour rien. Les subventions publiques, elles ont explosé au moment du Covid-19. C'est-à-dire que Macron était extrêmement généreux avec les médias d'information, alors vraiment très, très, très généreux. Donc on a eu des subventions déjà que déjà, c'était, on est plus de plusieurs millions d'euros, plusieurs milliards, c'est des milliards hein, par an. Ça avait mais vraiment explosé justement, donc ça avait aussi permis de, bah, en fait, de ramener un peu les médias. Ça permet aussi de soumettre, hein, de compromettre l'argent. Et effectivement, avec le développement de l'IA, etc., et le fait que, avec la perte de crédibilité, la perte
C'est
d'audience qui
ça.
sont dans les rapports que vous avez sur les zones grises de l'information. Dans ces rapports, ils se font tous le même constat, c'est-à-dire qu'il y a une perte d'audience, une perte de confiance, enfin, c'est tous la même chose. Donc, pour survivre, elles vont de plus en plus être amenées à eh bien, dépendre de la subvention publique. Sauf que ben, le souverain, normalement, c'est-à-dire le peuple français, n'est de moins en moins d'accord avec ça. Donc évidemment, vous avez pas, ça va pas être, c'est de moins en moins public d'ailleurs, hein, ces histoires de subventions. Ça vient de plus en plus tardivement, on les a pas tous les ans exactement. Donc je ne peux pas vous dire, moi, lequel des médias est le plus subventionné. Au départ, c'était Le Parisien, aujourd'hui en France. Mais bon, voilà, ça tourne dans le, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire Le Monde, Le Parisien, qui sont en fait aussi les médias qui sont encore, qui ont encore bénéficient encore d'une clientèle quand même importante, donc ils n'auraient pas forcément besoin de ça, donc c'est ça qui est terrible. À l'inverse, vous avez plein de petits médias, entre guillemets, citoyens, nouveaux, qui peuvent être bien et qui auraient besoin de plus de subventions publiques. Il faudrait que ce soit au peuple de les décider, tout ça. Donc évidemment, tout ça n'est assez mal fait, mais on va mettre, voilà, c'est un peu le pot de miel, hein, c'est-à-dire qu'on va. C'est un moyen aussi de s'assurer que les médias resteront de notre côté, du côté de l'autorité et du pouvoir, quoi.
Chère Amélie, malheureusement, comme il ne nous reste qu'une minute, ça passe à chaque fois très
Ça
vite.
passe vite, oui.
Écoutez, un jour, je vous inviterai dans l'émission d'une heure et demie, je pense que ça sera pas mal.
Avec plaisir.
Voilà. Face à la fatigue informationnelle du public, quelle est la meilleure stratégie pour un journaliste citoyen? Aller plus vite, plus profond ou changer de format?
Il ne faut pas hésiter à se déconnecter de temps à autre pour la fatigue informationnelle. C'est important, c'est très important. Pourquoi aussi? Parce qu'on a besoin de aussi pour analyser l'information, elle a besoin d'être analysée, elle a besoin d'être mise en distance. Et pour ça, on a besoin de vacances, on a besoin de vacances avec notre cerveau, tout simplement. Donc, profitez-en, hein, puisqu'on est en été. Et puis, je pense que le meilleur moyen, c'est toujours de faire confiance à son esprit critique. Je le répète toujours à votre émission, mais c'est important. N'hésitez
Non,
pas
c'est
à
important de
lire.
le dire. Hein.
Et de lire vraiment une très grande, surtout de rester diversifié, c'est-à-dire de lire des médias très différents,
Ça.
même des médias traditionnels. Il ne faut pas hésiter à le faire. Pourquoi? Parce que ça vous permet de réfléchir à comment fonctionne l'information. Et ça, c'est le meilleur moyen de nourrir votre esprit critique.
Et quid de votre chaîne YouTube, toujours en...
Eh bien, malheureusement, j'avais besoin de travailler pour vivre, donc j'ai dû mettre ça un petit peu en
D'accord.
suspens. Mais on essaye là vraiment. J'essaie encore justement sur le. J'ai enregistré une vidéo sur justement sur cette histoire d'ingérence intérieure parce
Oui,
que ça
tout
m'a
à fait.
tellement choquée que ça m'a beaucoup inspirée. Donc je vais vous sortir prochainement justement un petit peu revenir sur la
Ah.
loi autour des fake news. Voilà.
Eh bien, écoutez, Amélie, merci infiniment, comme d'habitude, pour cet échange dense, lucide et sans langue de bois. Hein. Bon, vous nous avez rappelé que face à la machine à narrer, le journaliste citoyen n'est pas une option, c'est devenu une nécessité, n'est-ce pas, démocratique? À tous nos auditeurs, hein, n'oubliez pas que l'information ne se consomme plus passivement, elle se vérifie, elle s'exige, elle se produit parfois. Le courage de poser les bonnes questions et de chercher la vérité, même quand elle dérange, reste notre meilleure arme. Merci encore à vous, hein, Amélie Ismaili, d'avoir été des nôtres
Merci à vous.
aujourd'hui. À très vite. Restez vigilants, restez libres, chers auditeurs. À mercredi prochain et bonne semaine.